Frères et sœurs, les amis, l'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire est dans la droite ligne de l'évangile du dimanche dernier où nous avions accueilli la profession de foi de Pierre et en réponse la nouvelle béatification, si je puis dire, de la part du Christ. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Nous avions bien rappeler que c'était le travail de l'Esprit-Saint dans le cœur de Pierre qui lui a proposé cette profession de foi. Je m'étais permis de dire, savait-il véritablement ce qu'il disait, ou tout au moins, j'imagine qu'il n'entrevoyait pas les conséquences. En effet, je crois qu'une fois de plus, il faut se mettre dans la peau de ces deux personnages, de Pierre et du Christ. Il vient de recevoir de la part de Pierre une sorte d'intronisation, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc, à la fois, si je puis dire, Jésus est pris au piège, il est reconnu comme étant le Messie, celui qui allait délivrer Israël de l'occupant. Mais voilà que le Seigneur va lui dire, à partir du moment où Jésus, le Christ, a reçu de la part de Pierre cette dénomination de Messie, ce dernier, Jésus-Christ, va montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem et souffrir beaucoup. Donc on voit bien que, et on peut très bien imaginer que Pierre a été comme déstabilisé. Il vient d'être plein d'espérance dans ce Messie qui va, pour lui, certainement délivrer Israël de l'occupant. Mais voilà, ça tombe fort à propos, si je puis dire, mais de manière à l'envers, comme un monde à l'envers. Le Messie est ce roi sans armes ni privilèges. Pire que cela, il est un roi maltraité et apparemment consentant, puisqu'il parle de souffrir beaucoup et d'être même mis à mort. Quelle idée! Il faut imaginer la scène, la tête de Pierre, qui a raison de s'insurger, on le comprend bien. Pierre et les disciples attendaient, bien sûr, un messie triomphant, un messie roi, et patatras. Voilà que c'est tout le contraire. On comprend très bien la réaction de Pierre. On pourrait presque intituler ce chapitre, ces versets que nous écoutons ce dimanche, le premier reniement de Pierre, premier refus de suivre Jésus le Christ dans sa souffrance. Et on peut le comprendre. Mais Jésus ne se laisse pas démonter, il affronte ce refus spontané de Pierre comme une sorte de véritable tentation pour lui-même. Et il lui dit avec force, « Arrière, Satan, retire-toi de mon chemin, sous-entendu, car tu es pour moi une occasion de chute. » Nous voyons bien par là que nos pensées et nos voix, spontanément humaines, quoique tout à fait naturelles, ne sont pas ni les pensées ni les voies de Dieu. C'est là qu'il faut donc laisser place, si je puis dire, à l'Esprit Saint, pour nous laisser transformer. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, ce n'est rien d'autre que le salut du monde. Alors, par nos propres forces, nous ne pouvons pas sauver ce monde, bien sûr. Mais c'est de nous poser la question, quel est le salut du monde? Le salut du monde, c'est la naissance d'une humanité nouvelle. Et cette humanité nouvelle ne va pas se faire par un coup de baguette magique, bien évidemment. Le salut de cette humanité, le salut de chaque homme, ne peut pas se faire de cette manière-là. Car alors, où serait notre véritable liberté? Le salut de cette humanité, le salut de chacun et chacune d'entre nous, passe donc inévitablement par une conversion de chacun de nous, de chaque homme. Alors, posons-nous cette autre question. Comment convertir les hommes sans leur montrer le chemin? Comment les convertir sans être soi-même témoin, et témoin jusqu'au bout, pas simplement témoin en parole, pas simplement témoin comme une sorte de catalogue moralisant, mais en étant véritablement témoin. Et je pense que c'est ainsi que nous pouvons comprendre ce fameux « il fallait bien que ». Il fallait bien que Jésus emprunta jusqu'au bout le chemin de douceur, de bonté, de pardon pour que nous puissions l'emprunter, ce chemin, à notre tour. Je répète très souvent que ça aurait été facile de la part du Christ de venir comme ça, de manière triomphante, installer son règne. Mais il n'aurait été que de courte durée, sachant la fragilité de l'homme. Donc il ne pouvait que nous donner le témoignage d'un engagement jusqu'au bout, d'un engagement fort, de laisser les paroles vaines et creuses de côté et d'annoncer, en obéissance à son Père, d'annoncer ce chemin royal du salut. Mais je le répète souvent, je vous le répète souvent, le salut ne peut pas se faire envers et contre nous, il ne peut se faire que dans la mesure où nous empruntons ce chemin de conversion, comme le Christ lui-même l'a emprunté à la suite de l'obéissance de son Père. En effet, le plan de salut de Dieu ne s'accommode donc pas d'un Messie triomphant. Il faut bien que nous comprenions que les hommes qui doivent parvenir à la connaissance de la vérité, car c'est ça qui est en jeu, il faut que les hommes découvrent ce Dieu non pas triomphant, mais un Dieu de tendresse, de pardon, de miséricorde, de pitié. Et cela ne peut pas se faire autrement que dans le don suprême de la vie du Seigneur. Et nous pouvons graver dans notre cœur, il me revient à l'esprit ce verset, « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur dans cette Eucharistie, nous qui par notre baptême avons été faits amis de Jésus-Christ, nous puissions avoir le courage, la force et l'audace, nous aussi, d'abord par notre témoignage. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller jusqu'au sacrifice de notre vie, mais d'abord par notre témoignage, de pouvoir rendre au Seigneur le don qu'il a fait de sa vie, don si précieux, ce don que nous accueillons dans notre cœur et dans notre corps par l'Eucharistie. Car je rappelle au passage la définition qui est toujours la même de l'Eucharistie, c'est le rappel, ici et maintenant, du sacrifice non sanglant du Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde, pour le salut de chacun de nous, pour le salut de l'humanité. Amen.